Il n'en restera donc plus que quatre après celle-là.
And after tonight, we will have just four left.
Combien de livres dans la Bible?
How many books in the Bible?
66.
66.
Combien dans l'Ancien Testament?
How many in the Old Testament?
39. 39. Donc combien dans la dans le Nouveau Testament?
So how many in the New Testament?
66 moins 39 égale 27.
Et
parmi ceux-là, on a vu les évangiles et le livre des Actes, on fait 5. La semaine dernière, nous avons vu que l'apôtre Paul avait écrit 13, presque la moitié. Nous avons vu que ces 13 lettres, en fait, elles représentaient des lettres à 7 églises. Ou groupes d'églises, comme les Galates ou les Éphésiens. Ce soir, nous allons voir 8 des autres épîtres, qu'on appelle des fois les épîtres générales, des fois les gens les appellent même les épîtres catholiques, pas qu'elles soient de l'Église catholique, mais qu'elles ont une signification universelle. Parce qu'elles n'ont pas été envoyées à un groupe d'église ou à une église. Et puis nous passerons un peu de temps sur le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Voilà, alors Paul a écrit 13 ou peut-être 14 des épîtres du Nouveau Testament. Selon que l'on considère que c'est lui l'auteur de la lettre aux Hébreux ou non. On a vu que le grand passage de doctrine dans le Nouveau Testament, c'était quelle lettre? C'est une question. Romains, très bien. La deuxième lettre la plus importante au niveau de la doctrine, c'est sans doute l'épître aux Hébreux. Cette lettre fait allusion à des persécutions qui se sont passées soit sous l'empereur Claude ou soit sous Néron. Mais on est à peu près sûr qu'elle a été écrite avant l'an 70. L'année de la destruction du temple de Jérusalem par les troupes romaines. Parce qu'il est question d'un sacerdoce qui fonctionne toujours, au chapitre 10, verset 11 notamment.
A ministry that will continue
was still happening at the time.
And this is referred to in chapter
10, verse 11. Comme de quelque chose qui se passait encore à l'époque où la lettre est écrite.
And making reference to something that was happening when the letter was being written.
On a pensé, même dans un concile d'église à l'époque, c'était une réunion des églises de l'époque, en 419, que c'était bien Paul qui l'avait écrite. D'autant qu'il est question du protégé de Paul, Timothée. À la fin de la lettre,
at the end of the
La seule chose, c'est que d'habitude, Paul signait toujours ses lettres. Il disait que c'était Paul qui l'avait écrit par la main de quelqu'un d'autre. Alors, on a proposé d'autres auteurs comme Barnabas ou Apollos. Mais toujours est-il que, peu importe, c'est une grande lettre. Elle a été envoyée de Montebelluna, non, d'Italie. Le verset à la fin nous dit que ceux d'Italie vous saluent. Et c'est comme ça que le pasteur de Angela signe ses lettres. Il dit toujours next to last verse.
The next to last verse says that those from Italy greet you.
Et donc on pense qu'elle était adressée aux Juifs qui étaient devenus chrétiens en Palestine. Et sous l'influence des persécutions, certains avaient rejeté leur foi en Christ ou avaient dit qu'ils la reniaient. D'autres n'étaient plus très sûrs. Et d'autres avaient besoin d'être encouragés. Il faut imaginer que si vous avez vécu dans une religion qui a été instituée par Dieu, qui a été vous célébrez dans un temple qui a été dessiné selon les plans de Dieu, de dire qu'en fait il fallait avoir une nouvelle foi, que c'était un grand pas pour ces Hébreux. Mais l'auteur de cette lettre va montrer qu'en fait Jésus-Christ est tellement supérieur à ce qu'ils ont connu dans la foi juive. Il y a un mot-clé qui revient au moins une douzaine de fois qui en grec veut dire meilleur, mieux ou supérieur. Et l'auteur va systématiquement leur montrer comment Jésus-Christ est supérieur à tout ce qu'ils ont pu connaître dans la foi juive, l'ancienne alliance, pardon. Cette façon systématique de prouver par A plus B que Jésus-Christ est supérieur, ça ressemble beaucoup à Paul. Alors là, nous allons bien sûr survoler cette lettre, malheureusement. Parce qu'on doit parler de sept autres lettres. Mais Paul va s'attaquer à des choses qui étaient sacrées dans la foi des Israélites de l'ancienne alliance. Et il va le présenter au tout début de la lettre comme la révélation finale de Dieu le Père. On peut lire ensemble les versets d'introduction. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main, il y en a encore derrière. Si tu veux bien en prendre quelques-unes. C'est page 246 dans la Bible à la colombe, à la fin, c'est donc la deuxième partie. Ils sont sous le... Pour Magali, une suffira. Page 246, à la fin, il y a deux séries de numéros. Il faut aller à la fin et voir page 246. Après avoir autrefois à plus... Tout à la fin, Magali. Tu as la fin et tu reviens sur 246. Parce qu'il y a deux livres. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a été d'un nom bien différent du leur. Et l'auteur, j'allais dire Paul, mais on n'est pas sûr, montre d'abord que Jésus est bien supérieur aux anges. Un autre grand personnage dans la foi de l'Ancien Testament, c'était bien sûr Moïse, qui avait été l'auteur du Pentateuque. Et au chapitre 3, Jésus-Christ montre que l'auteur montre que Jésus-Christ est bien supérieur à Moïse. Il parle aussi de sa supériorité à Josué. Et au passage, au chapitre 2, il nous dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Verset 3 du chapitre 2.
And in chapter 2, verse 3, he asked, the author asked, how shall we escape if we neglect so great a salvation?
Et je crois que tout chrétien, nous devons de temps en temps réfléchir à la grandeur incroyable du salut que Jésus-Christ a pourvu pour nous.
I believe that every Christian should reflect from time to time at the greatness of the salvation.
Il y a souvent le danger de la familiarité. Et on sait que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ et on oublie un peu quelle dimension il représente. C'est un salut, mais c'est un si grand salut. Pourquoi est-ce qu'il est si grand, ce salut?
Why is it so great, a salvation?
C'est un salut tellement grand parce que nous étions tellement perdus, comme Mouna le racontait, le relatait.
It is so great because we were so lost.
Donc c'était une grande délivrance.
It was a great deliverance.
Mais la première chose, surtout dans le contexte, c'est parce que c'est un si grand sauveur, Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, il est l'expression complète de son être. Il est le Créateur, il est l'héritier du Père, c'est par lui que tout a été fait. Et on pourrait faire toute une étude sur sa grandeur, bien sûr, plus qu'une étude, une vie, ça ne suffirait pas. C'est aussi un grand salut parce qu'il y a un grand appel. Nous ne sommes pas seulement sauvés, mais nous sommes appelés à servir le Dieu des dieux, le roi des dieux.
We have been called to serve the Son of God.
The God, et Dieu lui-même.
And God himself.
Et dans le témoignage de Mouna, on voit comment du salut, elle n'a pas traîné, elle a voulu connaître la parole et maintenant elle veut servir à temps plein.
And we saw with Mouna shared that when she was saved, she didn't lose She had a hunger for the word and she studied, and now she wants to serve him full time.
On pourrait multiplier les raisons pour lesquelles ce salut est si grand. Une dernière, peut-être qu'on verra ce soir ou que j'évoquerai, c'est le fait que ça a coûté tellement cher à Dieu. Quelque part, on peut penser qu'en fait, quand on parle de Dieu le Père qui a envoyé Dieu le Fils mourir pour nos péchés, que en fait, il a envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Il could have done come himself.
God could have come himself.
Mais ça, c'est quelque chose de qu'on comprend mieux lorsqu'on a des enfants.
But it's something we understand better once we've had children.
Et qu'en fait, donner son fils, c'est plus dur que se donner soi-même. Et il est dit dans Romains qu'il a donné la chose la plus chère qui existait. Ce qu'on chantait ce soir, tu es tellement précieux, Jésus-Christ. Qu'en fait, on ne peut pas douter qu'il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais nous devons être conscients, nous devons être imprégnés de la grandeur du salut dont nous avons bénéficié. Pour lorsque nous parlons à ceux qui nous entourent, nous puissions communiquer cette grandeur. Et sans doute, vous avez parlé à vos amis, à votre famille, et lorsque vous leur parlez du sacrifice de Jésus-Christ, est-ce que ça les intéresse? Non, pas vraiment. Tant mieux pour toi, mais pour moi, bof. Et les gens ne réalisent pas que c'est tellement grand. Mais nous devons être les premiers conscients de cette grandeur pour pouvoir essayer de communiquer avec l'aide de Dieu. Et je suis sûr que si on lisait ensemble l'Épître ce soir, on aurait plein de passages qui sont devenus des passages favoris pour chacun de nous. Chapitre 4, verset 12, il est question de la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, qui pénètre jusqu'à la division de l'âme, des jointures et des moelles, de la division de l'âme et de l'esprit, et qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en toutes choses, mais sans jamais commettre de péché, verset 15. Le verset 16 aussi, c'est un verset merveilleux. Nous pouvons nous approcher et nous sommes exhortés à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Verset suivant, il est question de... D'abord, nous avons vu Christ comme étant le Fils, qui est la révélation finale dans ces quatre premiers chapitres.
Final
revelation of God. Dans le reste de chapitre 4 et verset, jusqu'au verset 10, il est présenté comme le grand prêtre, le sacrificateur. Et il est question d'un certain Melchizédek, chapitres 5 et 7. C'est versets 5 à 7, dans le chapitre 5, oui. Ça fait référence à un personnage un peu mystérieux de la Genèse. Qui est à la fois un roi et un grand prêtre, qui n'a pas de généalogie, on ne sait pas trop d'où il vient. Et il est dit qu'en fait, Lévi avait payé, comme Abraham avait versé une dîme à cet homme, ce roi, ce grand prêtre. Il y a un concept intéressant que déjà Abraham portait en lui les gènes qui allaient donner naissance à Lévi, le fondateur de la tribu des Lévites qui allait être les sacrificateurs. Et qu'en fait, par Abraham, Lévi avait déjà payé la dîme à ce grand prêtre, Melchizédek. Et par cela, la prêtrise des Lévites était inférieure à la prêtrise de Melchizédek. Et en fait, ce Melchizédek, c'est un type, une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Il y a une très intéressante comparaison entre le salut que donne Jésus-Christ et le salut partiel et temporaire que donnaient les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et seul, il est dit que le sang des boucs et des ne pouvait pas. Jésus-Christ a accompli un sacrifice parfait une fois pour toutes comparé au sacrifice qui devait être répété des prêtres de l'Ancienne Alliance. The sacrifice of Christ was perfect because he did it once for all, and compared to the sacrifices that needed to be presented over and over by the priests of the old alliance, the former alliance. Et nous n'avons plus à chercher à obtenir le pardon, nous avons été absolument pardonnés une fois pour toutes par le sacrifice de Christ. Et c'est la supériorité de la nouvelle alliance comparée à l'ancienne alliance. Le reste de l'épître, c'est Christ qui n'est pas seulement le sacrificateur, mais qui est le Seigneur. Il nous a fait la promesse d'un pardon complet. Et l'auteur est celui qui achève notre foi. L'auteur de notre foi, c'est Jésus-Christ. Et il y a ce célèbre passage sur la foi dans Hébreux, en commençant au chapitre 10 et puis le fameux chapitre 11 sur la foi.
And there is the famous passage
La foi qui est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est au début du chapitre 11, page 254. Et une chose très importante, ce n'est que par la foi que l'on peut plaire à Dieu. Il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et puis, il y a une revue des hommes de l'Ancien Testament qui ont fait preuve d'une grande foi. En commençant par Abel, Enoch, Noé, Sarah, Abraham, on l'a déjà cité, Isaac et Jacob, Moïse, Gédéon, Barak, Samson, les juges dont nous avons parlé la semaine dernière. Et verset 1 du chapitre 12 nous dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Et nous sommes exhortés à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement pour courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui mène à la perfection. Versets 1 et 2.
In chapters 1 and 2, in verses 1 and 2 of chapter 12, we are exhorted to lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, fixing our eyes upon Jesus, the author and perfecter of our faith.
Dans cette lettre, il y a plusieurs passages, d'autres passages intéressants, on ne peut pas les regarder tous ce soir.
In this epistle, there are many other interesting passages we don't have time to look at tonight.
Mais il y a cinq avertissements importants de ne pas partir à la dérive en négligeant la parole, de ne pas mettre la parole en doute par manque de foi, par incrédulité, de ne pas répondre à la parole en manquant de grandir dans la foi, si vous n'avez pas grandi dans votre foi, dans votre connaissance de Dieu, de sa parole, de comment une vie transformée au bout de quelques années, peut-être qu'il y a un problème dans votre foi. Okay. Maybe you have a problem with your faith. Il ne faut pas mépriser la parole en péchant de façon délibérée. Et ne pas désobéir à la parole en étant indifférent, en refusant d'écouter, d'obéir. Ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces épîtres, on va passer à celle de Jacques, on pense des fois qu'elles sont en opposition avec certaines épîtres de Paul. Vous savez que Paul disait qu'on avait l'assurance d'être sauvé une fois pour toutes. Dans le chapitre 6 de Hébreux, on peut mal comprendre qu'il y a un risque de ne pas être sauvé, bien qu'on ait accepté le Seigneur. Et en fait, quand on prend le temps d'étudier et de comparer les textes, on s'aperçoit qu'il y a une parfaite harmonie, il n'y a pas d'opposition. Nous avons vu dans la lettre aux Romains que Paul expliquait que nous étions sauvés par la foi.
We saw in the letter to the Romans, Paul explained we are saved by faith.
quelqu'un d'aussi important que Luther n'aimait pas l'épître de Jacques.
And people as important as Martin Luther didn't like the epistle of James.
Parce qu'il pensait que Jacques invitait les gens à être sauvés par leurs œuvres.
Because he believed that James was inviting people to be saved through their works.
En fait, ce n'est pas du tout ce que dit Jacques. Il n'y a pas du tout de contradiction. Tout ce qu'il dit que si vous avez une foi authentique par laquelle vous êtes sauvé, alors automatiquement elle va se manifester par des œuvres. Cette lettre est adressée aux 12 tribus d'Israël, au premier verset.
This letter in the first verse was written to the 12 tribes of Israel.
Il est question de la dispersion. C'était les premiers juifs chrétiens qui avaient été dispersés à cause des persécutions.
It mentions the dispersion or the first groups of Jews that were forced to go abroad because of persecution.
Et souvent le Seigneur peut utiliser la persécution pour répandre sa parole. Si nous n'avons pas à cœur d'aller la porter aux nations, aux peuples qui nous entourent, Dieu peut nous forcer à le faire. Jésus-Christ ressuscité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il était devenu croyant et un des piliers de l'Église du premier siècle. Et ce qui est formidable, en fait, c'est l'aspect pratique de cette lettre. C'est vraiment une invitation à mettre en œuvre dans nos vies pratiquement la parole de Dieu. Et ça fait penser un peu au livre des Proverbes de l'Ancien Testament ou de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Il nous dit que si nous avons besoin de la sagesse d'en haut, nous pouvons la demander à Dieu. Il nous dit comment nous comporter avec nos frères, avec ceux qui sont plus riches, avec ceux qui sont moins riches que nous. Il explique que les épreuves sont souvent voulues par Dieu pour faire grandir notre foi. Verset 2 du premier chapitre. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Verset 2 et
4. In chapter 1, in verse 2, it says, consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing.
Il nous met en garde contre l'usage non contrôlé par Dieu de la parole, de la langue.
And he warns us to beware of the uncontrolled use of our tongue.
Il dit que verset 4 du chapitre 3. Voyez les navires, si grands qu'ils soient, poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne, etc.
Though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder, wherever the inclination of the pilot desires. So also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. Behold how great a forest is set aflame by such a small fire.
Donc des choses très pratiques sur notre vie, notre façon de nous comporter. Plus loin, c'est encore une fois demander la sagesse d'en haut.
So our
des conseils sur notre attitude d'humilité, qui doit être une attitude d'humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Comment résister au diable? Il faut se soumettre à Dieu. Ne pas juger les frères, ne pas médire des autres. Un verset qui m'a toujours encouragé, c'est le verset 7 du chapitre 5, de prendre patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son écart, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Parce que je le prenais dans le sens que l'implantation d'une église, c'est un travail de longue haleine. Et on ne fait pas le métier de fermier en fast food. There is no such thing as a fast farming. Farming takes time. Des conseils pour prier. De prier pour les malades. De confesser nos péchés les uns aux autres. Et il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et donc un tas de conseils très pratiques qui sont vitaux dans notre vie de chrétien. Passons ensuite aux épîtres de Pierre. Là aussi, c'était pendant la persécution qui avait démarré sous l'empereur romain, Néron, oui, l'empereur romain Néron. L'auteur, c'est notre ami l'apôtre Pierre, qui était un homme plein de zèle et d'ardeur, mais qui souvent parlait avant de réfléchir. Et qui a renié trois fois son maître. Nous savons comment Jésus l'a pardonné, lui a demandé d'aller prendre soin de ses agneaux, de ses brebis. Nous avons vu dans le livre des Actes que la première partie, nous voyons qu'il a la prééminence dans le mouvement de l'Église qui naissante. Et il a cédé la place ensuite à l'apôtre Paul. C'est progressivement qu'en fait l'apôtre Paul a pris la prééminence dans les récits des Actes et la vie de l'Église. Et Pierre s'adresse à des chrétiens en Asie mineure. C'est ce qu'il dit au premier verset. Il parle aussi de la dispersion, de la diaspora en grec, ou en grec, oui, le mot grec. Et lui aussi nous dit que les épreuves font partie de la vie chrétienne. Il parle de la merveilleuse parole de Dieu. Que la parole du Seigneur demeure éternellement. Il explique que ça demeure éternellement. Il parle de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, la pierre d'achoppement. Il est dit qu'il envoie cette lettre depuis Babylone. Certains pensent que c'était un nom de code pour Rome. D'autres pensent qu'en fait il s'agissait vraiment de la ville de Babylone qui se trouve maintenant dans l'Irak actuel. Parce qu'il est vrai que lors du retour des Juifs d'exil à Babylone, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient restés. Le Talmud de Babylone a été écrit là-bas. Et le thème principal, c'est l'espérance dans la souffrance. Et lui aussi nous parle de notre conduite envers les autorités, nos maîtres, entre les devoirs entre époux. Les devoirs entre frères. Et lui aussi nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Sa deuxième épître, Pierre l'écrit, sachant que son départ est proche, Jésus lui a parlé d'un futur martyr, de son martyr. Et il nous invite à ajouter à notre foi au chapitre 5 verset 5 du chapitre 1 à la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité, l'amour. Et il dit que si ces choses sont présentes parmi nous, nous qui sommes chrétiens, alors nous ne serons pas sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est triste, mais qui est une réalité, c'est que dès la fin du premier siècle, à l'époque où Pierre écrit cette lettre, il y a déjà des hérésies qui se mettent en place. Il y avait notamment une fausse doctrine à laquelle Jean va s'attaquer dans ses trois épîtres. Qui était le gnosticisme. Et l'idée, c'était qu'en fait, il fallait avoir une connaissance supérieure pour accéder à Dieu et à son salut. Et c'était un peu un accès ésotérique à Dieu. Il disait aussi qu'en fait, le corps était par nature plein de péché. Et qu'en fait, il n'y a pas d'espoir et qu'on peut continuer à pécher dans notre corps, c'est pas grave.
No hope,
mais que ce qui compte, c'est l'esprit. Ils expliquaient même qu'en fait Jésus-Christ n'était pas venu en homme sur la terre, qu'il y avait été, il y avait un homme et sur lequel était venu l'esprit. That came upon a man, et qui était reparti à la crucifixion. Et on voit que Pierre et Jean devaient vraiment combattre cette hérésie qui avait beaucoup de succès à l'époque. Parce qu'elle plaisait aux hommes qui sont toujours tentés par le péché. Et il a un verset 22 du chapitre 2, il reprend un proverbe, il dit « Le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée va se vautrer dans le bourbier. » Il parle du retour du Seigneur. On a dit qu'un verset sur 25 dans le Nouveau Testament parlait du retour de Jésus. Il parle des derniers temps dans le chapitre 3, des gens qui se moqueront en disant « Où est la promesse de son retour ? Ça fait tant de temps qu'on nous en parle et il n'y a jamais rien à changer, jamais rien ne va changer. » Et c'est là qu'il annonce qu'en fait, Dieu est intervenu dans sa création avec le déluge déjà. Et il dit qu'en fait, Dieu a un autre calendrier, un autre monde que la nôtre. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Et que le temps qu'on pourrait croire un temps de laxisme de la part de Dieu n'est qu'un temps de patience et d'amour. Verset 9 de chapitre 3, il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Il nous invite à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les épîtres de Jean, il y en a trois. La première épître, 5 chapitres, les deux autres, seulement 1 chapitre. C'est l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile de Jean et le livre de l'Apocalypse. Lui qui était devenu le disciple que Jésus aimait, le disciple, l'apôtre de l'amour. Il écrit la première épître pour plusieurs raisons, pour que nous soyons en communion avec le Père et le Fils. Il veut que notre joie soit complète. Et une étude intéressante, c'est de voir les raisons pour lesquelles il dit écrire cette lettre. Il l'adresse à 3 catégories de chrétiens, les petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui sont nouveaux dans la foi, les pères, peut-être ceux qui sont déjà plus mûrs dans Christ, qui ont déjà eu des enfants spirituels, les jeunes gens, ceux qui sont en pleine croissance spirituelle, et il nous invite à marcher dans l'amour de Christ, dans la lumière, pour avoir la communion avec Dieu et avec les frères. Il nous avertit des dangers qui nous guettent. Là aussi, dans cette lettre, il y a beaucoup de passages que vous avez appris à aimer et à connaître par cœur, j'en suis sûr. Juste quelques-uns, verset 15 du chapitre 2. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Chapitre 3, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Deux versets clés, le chapitre 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il nous parle de la certitude que nous pouvons avoir de notre salut. Verset 13 du chapitre 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans ces deux autres épîtres, Jean s'adresse à, on pense à une église. Et là encore, il met en garde les chrétiens contre les fausses doctrines. Il nous invite à marcher selon la vérité et à nous méfier des contrefaçons. Verset 1 du chapitre 1, verset 10 de la seconde épître, il nous dit de ne pas recevoir les témoins de Jéhovah dans notre maison. C'est pas dit expressément, mais il nous invite à ne pas ouvrir notre maison et dire bonjour à ceux qui viennent avec une autre doctrine que celle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu le Fils. Dans la troisième épître, il nous dit qu'il n'a pas de plus grande joie que de savoir que ses enfants marchent dans la vérité.
And in the third epistle, he says that he has no greater joy than
Il s'adresse à un dénommé Gaius. Et là aussi, il met en garde contre des faux docteurs ou des gens qui ont perturbé l'Église. L'épître de Jude, la dernière que nous allons voir ce soir, c'est donc écrite par Jude, qui était lui aussi le demi-frère un frère de Jacques. Et donc, qui était un demi-frère du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que sa mère était Marie. Et là encore, ça rejoint l'épître de Pierre qui combattait les fausses doctrines. Et ces faux docteurs pervertissent la grâce divine, verset 4. Ils infiltrent les réunions des croyants. Ils flattent ceux qui sont mal affermis dans leur foi. Il nous dit de combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes, et nous devons reprendre cette exhortation à notre compte. Verset 3 du chapitre 1. Qui a été transmis. Ça, c'est très important de réaliser que tout ce que nous avons besoin de savoir, nous l'avons déjà dans la parole de Dieu. Nous avons la tendance humaine à chercher des nouveautés. C'est pour ça que les publicitaires mettent des nouveaux paquets, des nouvelles couleurs. C'est toujours nouveau, extra, super improuvé. Et on peut dire en général, en ce qui concerne la parole de Dieu, que ce qui est nouveau n'est pas vrai. Et ce qui est vrai n'est pas nouveau. Ça fait 2000 ans que nous avons toute la révélation dont nous avons besoin pour connaître Dieu, pour être sauvés, pour le servir. Nous n'avons pas besoin du Coran, nous n'avons pas besoin du livre des Mormons, nous n'avons pas besoin d'une dernière révélation de grands prophètes. Efforçons-nous de connaître et de mettre en application tout ce que nous avons déjà reçu. Les choses que nous ne savons pas, c'est que Dieu a choisi de ne pas nous les révéler. Deutéronome 29:29, les choses révélées appartiennent à nous, mais celles qu'il n'a pas encore révélées appartiennent à Dieu. Et un très beau passage de Jude, c'est de nous maintenir dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est verset 21. Et pour moi, c'est une image, l'amour de Dieu est là comme une douche bien chaude. Et c'est à nous de rester dans cet amour. Vous avez le choix de descendre, de sortir de la douche, de vous geler. Ou vous pouvez faire tous vos efforts pour rester en plein dans le centre de son amour. Il est celui qui peut nous préserver de toute chute, pour nous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Verset 24.
24, it says that he is the one who is able to keep us from stumbling and to make us stand in the presence of his glory, blameless, with great joy.
Et ça termine par le verset 25 qui peut être notre conclusion pour ce soir. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et donc c'est vrai, c'est difficile de survoler aussi vite ces merveilleux passages de la parole de Dieu. Encore une fois, je veux vous inviter à avoir vraiment un temps de lecture personnelle régulier. Et vous pouvez prendre ces épîtres, celles que peut-être vous ne connaissez pas bien, et les lire un peu chaque jour en demandant au Seigneur de vous aider à les comprendre, en soulignant les passages qui vous parlent, qui vous interpellent, on disait avec le groupe des hommes samedi matin. On disait que c'est important d'avoir un endroit où on passe du temps avec le Seigneur. Un moment dans la journée, vous le faites. Et de vous battre pour maintenir la discipline. Jusqu'à ce que ça devienne vraiment une habitude où vous vous sentez tout nu si vous ne l'avez pas fait. Voilà. Terminons par un mot de prière. Seigneur, merci encore une fois pour la richesse, la vérité de ta parole. Sa vérité, pour sa préservation jusqu'à nous. Merci pour ceux qui l'ont traduite en français et en anglais. Ceux qui ont subi des persécutions pour que nous puissions la voir. Prions pour que tu continues à la répandre de partout dans le monde, Seigneur.
And we pray that you will continue to spread your word throughout the world.